France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's in the house.
Haliam Radio Rosana P. Paris.
Produce ghetto in la radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La Commission européenne vient donc de renoncer à interdire totalement les ventes de voitures neuves thermiques à partir de 2035. C'était l'une des mesures phares du pacte vert. Et c'est avec Pascal Canfin depuis Strasbourg que nous en parlons dans une minute. La Thaïlande et le Cambodge, encore opposés par des combats violents, mais où en sont ces guerres supposément stoppées par Donald Trump? C'est la question de Frédéric Seiss qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est en Afrique du Sud, dans les maisons de retraite de Johannesburg. Les services publics sont dans un tel état que les 39 maisons de retraite de la ville sont dans un état de délabrement avancé.
Mon plafond s'est effondré dans la salle de bain. Quand j'ai demandé pour des réparations, on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'argent. L'hiver, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est la vie.
Un reportage de Valentin Hugues à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le musée national de Tripoli qui ouvre enfin ses portes. Et puis juste avant 19h, Caroline Gillet qui pousse les portes de l'Europe à trouver la personne qui justement empêche tous les biens de consommation dangereux de passer les portes de l'Europe. C'est le portrait du jour. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Wir halten am Umstieg auf E-Mobilität grundsätzlich natürlich fest.
C'est le chancelier Merz que l'on entend. C'était en septembre dernier au Mondial de l'Auto de Munich et il dit en substance, nous tenons bien sûr à la transition vers la mobilité électrique, mais nous avons besoin de davantage de flexibilité dans la réglementation. Il nous faut une réglementation européenne intelligente, fiable et souple. C'est ce qu'il dit. Bonsoir Pascal Canfin.
Bonsoir.
Vous êtes député européen Renew Europe, l'Allemagne au centre de cette décision de la Commission. On y viendra dans un instant. L'interdiction totale donc de vendre des véhicules thermique neuf au-delà de 2035, Pascal Canfin. C'était l'une des mesures phares du pacte vert. Vous allez me dire que c'est du pragmatisme, c'est quand même un frein sur l'électrique. Est-ce que c'est même une reculade?
Alors, c'est loin d'être une reculade qui remettrait en cause l'essentiel, puisque la règle actuelle, jusqu'à cette modification proposée aujourd'hui par la Commission européenne, c'est que 100% des voitures vendues en 2035 soient zéro émission. Là, la nouvelle règle, c'est 90% des voitures doivent être zéro émission. Et les 10% qui restent doivent compenser les émissions liées à leurs émissions de CO2 par le carburant.
Résumer pour les gens qui nous écoutent très rapidement, ça veut dire désormais que les véhicules hybrides, en gros, hybrides rechargeables, rentrent dans l'équation, ils n'y étaient pas. Vous l'avez dit, réduction de 90 des émissions de CO2, donc pas 100%, une part limitée de voitures thermiques, et effectivement, en échange, des voitures qu'on doit construire avec de l'acier décarboné et qui doivent rouler avec un combustible durable. C'est ça l'entre-deux, finalement.
Exactement, c'est pour ça que la proposition de la Commission qui est faite aujourd'hui est un ajustement. Certains peuvent trouver que c'est déjà trop, d'autres trouveront peut-être que ça n'est pas assez, et l'Allemagne voulait aller bien au-delà. Heureusement, la France a gardé le cap de l'électrification, parce que, encore une fois, nous savons faire des voitures électriques, nous savons faire des batteries en Europe, nous savons produire de l'électricité, alors que nous n'aurons jamais de pétrole pour faire rouler des moteurs thermiques. Et donc, c'est non seulement un enjeu climatique, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté industrielle.
Et c'est quand même une décision, Pascal Canfin, qui est, j'allais dire, cousue autour de l'Allemagne quand même, parce que c'est l'industrie automobile allemande qu'on laisse souffler, non? C'est un peu ça la conclusion aussi.
Si je peux me permettre, je pense vraiment que c'est un tout petit peu plus équilibré et complexe que ça. Pourquoi? Parce que la demande des Allemands était beaucoup plus radicale. Par exemple, sur la voiture thermique, ils souhaitaient tout simplement réintroduire la possibilité de vendre des voitures thermiques sans aucune compensation, ce qui aurait mis tout simplement fin à la crédibilité de l'Europe en matière d'alignement et de compatibilité avec l'accord de Paris. Là, ce n'est pas le cas, puisque, je rappelle, on doit atteindre, les constructeurs automobiles doivent atteindre une réduction de 90% de leurs émissions pour les voitures neuves en 2035, et les 10% restants doivent être compensés de deux manières, soit en passant à des agrocarburants, des biocarburants de deuxième génération, pour qu'il n'y ait aucune concurrence, aucune compétition avec la production alimentaire, de l'acier vert, de l'acier décarboné, c'est-à-dire que les émissions résiduelles qui restent au pot d'échappement sont compensées par le fait que le processus industriel lui-même aura été davantage décarboné.
On est d'accord.
Donc on voit bien qu'on est loin d'un revirement complet, d'un demi-tour total de la part de la Commission
Alors,
européenne.
Alors quand même, très très rapidement là-dessus, l'acier durable, par exemple, on sait ce que c'est, on sait comment ça marche, on sait que c'est extrêmement cher. Donc, est-ce que ça ne se reporte pas immédiatement sur le prix des voitures ?
Ah bah, justement, vous avez raison. Bah, vous avez raison. Les biocarburants sont plus chers, l'acier vert est plus cher, et c'est précisément pour ça que c'est de la compensation pour les voitures qui ne sont pas elles-mêmes zéro émission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous regardez la totalité de ce texte, bah finalement, d'un point de vue industriel, il n'y aura pas beaucoup de rationalité en 2035 à continuer à faire des voitures thermiques, alors que, comme exactement pour les raisons que vous venez d'évoquer, le processus de production de ces voitures thermiques sera renchéri parce que il faudra utiliser de l'acier décarboné. Alors qu'à l'inverse, tous les industriels qui sont engagés dans la production de voitures électriques et de batteries en Europe nous disent que le plus difficile est d'atteindre à peu près 40% de part de marché pour l'électrique. Aujourd'hui, en France, on est à 25%. Donc, on a fait une très grande partie du chemin. Pourquoi 40%? Parce qu'une fois qu'on a atteint 40% de part de marché, tous les gains de productivité fonctionnent. Les volumes sont là, les prix baissent, etc. On n'est pas très loin de ça. Encore un an ou deux, si on tient le cap.
Monsieur Canfin, on vous le dit, on n'est peut-être pas très loin, j'en sais rien, mais pour l'instant, effectivement, on n'y est pas. Je ne sais pas si la bascule dans la tête des gens a été faite. Il y a un autre principe de réalité qui s'impose quand même. Les difficultés extérieures, on ne peut pas les nier. Les droits de douane, la hausse des prix de l'énergie, tout ça met l'industrie automobile dans une situation économique qui est difficile. Mais est-ce que quand même, au-delà de cette équation, il n'y a pas aussi un défaut industriel qui est le nôtre européen, parce qu'on n'a pas su le prendre, ce virage électrique, parce qu'on a mis un temps considérable, nous en France, à commencer à imaginer fabriquer des petites voitures, que les Allemands continuaient à faire des grosses berlines. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a raté ce virage industriel ?
Je pense que ce serait extrêmement pessimiste et très négatif pour tous les auditeurs de penser que ça y est, la messe est dite et que c'est perdu. Bien sûr que non.
Non, la messe n'est pas dite, mais on a pris du retard. On est d'accord sur le fait qu'on a pris du retard.
Si vous voulez me faire dire qu'on a pris du retard et qu'on ne va pas assez vite, notamment face à la machine chinoise qui, elle, est lancée à plein régime pour développer toutes les technologies de l'électrification, oui, bien évidemment, mais ça n'est jamais trop tard. Et un des éléments de ce paquet dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui est absolument fondamental pour l'emploi et les territoires dans lesquels l'industrie automobile est très présente, c'est la question du fabriqué en Europe, du contenu local. Pour la première fois dans ce texte, il y a des exigences de fabrication européenne des voitures, notamment des petites voitures électriques, pour qu'elles puissent bénéficier de subventions publiques, de façon à ce qu'elles soient encore moins chères pour les particuliers qui les achètent. Et le fameux acier vert dont on parlait à l'instant, eh bien, il devra lui aussi être fait en Europe, par exemple à Dunkerque, par ArcelorMittal. Donc on voit bien qu'on essaye de lier, et je pense que c'est une bonne méthode, on essaye de lier des objectifs climatiques qu'il faut tenir, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais aussi des politiques industrielles qui doivent davantage favoriser le fabriqué en Europe, le made in Europe, et c'est le cas avec ce texte.
Et sur le made in Europe d'ailleurs, les hybrides chinoises, mais vous m'arrêterez si je me trompe, ne sont pas soumises aux mêmes restrictions douanières que les électriques chinoises. Est-ce que ça veut dire que le ralentissement de la pénétration du marché, c'est ça que je voulais dire, est tout aussi difficile.
Ah ben, on a mis des droits de douane sur les voitures électriques chinoises et on voit que ça a un effet. Parce que le déferlement qu'on attendait de BYD, etc., n'a pas eu lieu. Par contre, nous n'avons pas mis de droits de douane sur les voitures hybrides rechargeables.
Mais est-ce qu'il faudrait le faire désormais qu'on a mis les hybrides rechargeables dans l'équation 2035?
Je pense qu'il faut faire à la fois des exigences de contenu local et, lorsque c'est nécessaire, des droits de douane pour, encore une fois, protéger pas forcément les constructeurs automobiles, mais les équipementiers automobiles, ceux qui sont aujourd'hui le plus en difficulté, c'est pas Renault, Stellantis, c'est-à-dire les marques de Citroën ou de Peugeot. Les plus en difficulté aujourd'hui face à la concurrence chinoise qui a pris des proportions inédites dans l'histoire, ce sont les Forvia, les Valeo, en Allemagne, les Continental, les Bosch. C'est eux qu'il faut protéger parce que l'essentiel des emplois dans la filière automobile, ce sont les équipementiers et ce texte va contribuer à les protéger.
Quelles promesses on est capable de faire en Europe aux fabricants de batteries, à ceux qui installent de plus en plus de bornes? Quels objectifs on leur fixe? Est-ce que ces objectifs sont clairs? Est-ce que ça change rien pour eux ou est-ce que ça brouille encore un peu leur piste?
Alors non, justement, je pense que le cap de l'électrification, il est maintenu. Quand vous dites, je ne vais pas être à 100, mais je vais être à 90, et qu'aujourd'hui on est à 20, bon, on voit bien que on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver aux 90. Donc le cap, il est maintenu. Donc tous ceux qui avaient prévu des investissements dans les bornes de recharge, dans les batteries, le cap est maintenu. Et le deuxième élément qui est tout aussi important, c'est le soutien financier. Dans le paquet de textes qui sort aujourd'hui présenté par la Commission européenne, il y en a un autre dont nous n'avons pas encore parlé, qui s'appelle le battery booster. Donc booster la production européenne de la batterie de manière extrêmement concrète. Nous allons mettre dès l'année prochaine, tout va être décaissé et transféré aux entreprises l'année prochaine, 1,5 milliard d'euros de plus pour soutenir les 3 usines qui aujourd'hui produisent des batteries à grande échelle en Europe, dont 2 en France, dans le nord de la France. C'est un soutien sonnant et trébuchant supplémentaire qui va leur permettre de faire face à la concurrence chinoise qui est, on le sait, à la fois difficile sur le plan technologique, parce que les Chinois sont bons, ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, et en plus, largement déloyal parce que sursubventionné par l'État chinois.
Monsieur Canfin, on ne peut pas s'empêcher de penser en voyant cet assouplissement, on va le dire comme ça, que le pacte vert, il a pris quand même il a pris quelques coups dans les coins ces derniers temps, depuis 2019. Ça a commencé par le report et la limitation du devoir de vigilance des entreprises. C'était après l'histoire du Rana Plaza et puis on est revenu en arrière. Il y a eu le recul d'un an sur les produits issus de la déforestation. Il y a la voiture, c'était un totem du pacte vert. Est-ce que vous avez le sentiment que quand même il prend des coups dans les coins, quoi, ce pacte?
Écoutez, je viens de sortir un ouvrage qui dit « Le pacte vert, une révolution menacée ». Donc oui, évidemment, cette révolution du pacte vert, elle est menacée. Et elle est menacée par qui ? Elle est menacée par une alliance politique entre la droite et l'extrême droite qui, comme Donald Trump aux États-Unis, a décidé de faire des politiques anti-climat, anti-écolo, une nouvelle identité comme Trump à la Maison-Blanche.
Et l'Europe donc, il est menacé. Voilà, et donc l'Europe est parfaitement perméable à ça, on ne découvre pas. Mais c'est une réalité qu'on voit chaque jour.
Tout à fait. Et aujourd'hui, l'alliance, ce qu'on appelle l'union des droites, l'alliance des droites au niveau européen, est en train de former, contre le pacte vert, une forme de Trumpisme européen qui est dramatique. Pourquoi il est dramatique ? Parce que si on sort un instant de l'enjeu climatique, mais qu'on se pose sur la question de notre indépendance, de notre souveraineté dans un monde évidemment de plus en plus complexe de ce point de vue-là, avec Poutine d'un côté, la Chine et Trump du troisième. On n'aura jamais de pétrole. On n'aura jamais de pétrole. Il faut prendre conscience que nous sommes le continent le plus pauvre au monde en ressources fossiles. Donc, il faut développer toutes les alternatives possibles, ce qui passe par l'électrification d'un certain nombre d'usages, par des technologies comme les renouvelables, comme le nucléaire, comme l'efficacité énergétique, etc. Parce que ça, on sait le faire. Et donc, on peut faire des voitures 100% made in Europe, avec des batteries en Europe, des emplois en Europe. On ne fera jamais des moteurs avec du pétrole, donc de l'essence, qui sont fait 100% made in Europe, parce que le pétrole ne sera jamais fait 100% made in Europe.
J'ai bien compris, mais ce que ça veut dire, et ce sera ma dernière question, c'est qu'on a renoncé aux conquêtes, en fait. On n'est plus sur l'offensive, comme on l'a été, on est sur la défensive s'agissant du pacte vert, et de plus en plus clairement aujourd'hui.
Oui, les 5 dernières années ont été des moments inédits. Nous avons fixé des règles du jeu inégalées dans l'histoire. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Il faut éventuellement les ajuster de manière souple et pragmatique, exactement comme vient de le faire aujourd'hui la Commission pour les voitures. Mais il faut surtout résister à cette offensive qui vient à la fois de l'intérieur de l'Europe avec les nationalistes européens et offensive de Trump aux États-Unis, vous l'avez cité, pour détricoter l'ensemble des réglementations du pacte vert européen.
Pascal Canfin, vous êtes député européen Renew Europe et je vous remercie beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, c'est vous, Frédéric Saïs, qui remettez le monde à l'endroit.
Donald Trump revendique avoir mis fin à 8 guerres, mais encore ces derniers jours, de la Thaïlande jusqu'à Gaza, c'est plus compliqué que ça.
Et c'est juste après ça.
Carrying my mind. another soldier, go ahead and kill me, can't get much stronger, find another soldier, go ahead and kill me, can't get much stronger, find another soldier.
Hayley Williams, Kill Me, arrivé en trombe dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Saïs.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Frédéric, il s'est vanté d'avoir mis fin à 8 guerres. Donald Trump face à la réalité de son bilan.
Et quel mot restera pour qualifier la présidence Trump ? Lui a déjà choisi le mot peacemaker, pacificateur. Régulièrement face à la presse, il égrène les guerres qu'il dit avoir stoppées. 8 en moins d'un an, selon le président américain, qui lorgne toujours le prix Nobel de la paix. À y regarder de plus près, le bilan est nettement plus contrasté. Parmi ces 8 guerres, Donald Trump cite par exemple celle entre la Thaïlande et le Cambodge, mais encore ce matin, Bangkok a dénoncé l'agresseur cambodgien après de nouveaux affrontements ces deux dernières semaines. Au moins 32 morts et 800 000 civils déplacés de part et d'autre de la frontière. Donald Trump affirmait pourtant en fin de semaine dernière qu'une trêve était acceptée par les dirigeants des deux pays. Il disait les avoir convaincus d'un simple coup de fil, mais le gouvernement thaïlandais a démenti et les combats se sont poursuivis.
Alors parmi les 8 guerres stoppées, le président américain cite aussi celle au Proche-Orient.
Le cessez-le-feu à Gaza à mettre effectivement à son actif. Donald Trump s'était d'ailleurs rengorgé de ce succès lors d'une cérémonie en Égypte. Mais le feu a-t-il vraiment cessé ? Ce week-end, une frappe israélienne a tué un commandant du Hamas dans la bande de Gaza. Frappe en réponse au déclenchement d'un engin explosif, selon l'armée israélienne. Ce bombardement israélien a mis en colère Washington et en péril le plan de paix. Selon le site Axios, la présidence américaine a envoyé un message privé très ferme au premier ministre israélien. La tonalité de ce message : nous ne vous permettrons pas de ruiner la réputation du président Trump. Selon un haut responsable cité par Axios, le président américain craint de voir dilapider le capital politique qu'il a misé sur la paix au Proche-Orient.
En Afrique, Frédéric, Donald Trump revendique aussi d'avoir arrêté la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Et pourtant, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur percée en RDC, une nouvelle ville conquise mercredi dernier dans la région du Sud Kivu, comme un défi, moins d'une semaine après l'accord de paix signé entre les deux pays sous l'égide d'un certain Donald Trump à Washington. Une violation de l'accord, dénonce le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Après ce rappel à l'ordre, le mouvement armé, le M23, ce matin a annoncé se retirer de la ville. Ici, la pression américaine fonctionne, au moins dans les mots. Sur le terrain, pas encore d'évacuation, selon les témoins interrogés par l'agence France-Presse. Alors revenons, Fabienne, à cette liste des 8 guerres. En réalité, certaines n'en sont pas. Donald Trump cite les frictions entre l'Égypte et l'Éthiopie ou entre le Kosovo et la Serbie. Il affirme avoir empêcher un déclenchement des hostilités. Présentation pour le moins audacieuse.
Le bilan donc du pacificateur Donald Trump est très contrasté.
Oui, même s'il peut aussi revendiquer un succès plus discret, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, après leur guerre, reprennent des relations économiques. Ces tout prochains jours, première livraison de pétrole depuis 30 ans. Il faut consolider ce succès, insiste le Premier ministre arménien dans le journal Le Monde cet après-midi. Mais effectivement, il y a un écart entre l'autosatisfaction du président américain et la réalité du terrain. Souvenez-vous du slogan trumpiste « La paix grâce à la force ». Pour l'instant, la seconde est plus visible que la première.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. À demain, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour à Johannesburg, en Afrique du Sud, où les 39 maisons de retraite publiques de la ville sont en faillite. Toutes, aucun budget pour réparer ou pour rénover. Au fil des années, les murs se sont effrités et fissurés, les toits se sont effondrés, les appartements restent vides pour la plupart parce qu'ils sont insalubres pour être loués. La ville semble avoir tout simplement baissé les bras. Reste le système D, donc, pour les résidents abandonnés qui s'organisent comme ils le peuvent. Et le reste, c'est Valentin Hugues qui raconte.
Dans ce village pour personnes âgées, il y a Brian, 65 ans, dégaine d'acteur avec sa veste Adidas rouge et ses toutes petites lunettes de soleil.
Tous les escaliers se fissurent comme celui-là.
Gérald porte lui une chemise marron et frotte sa main sur un mur gris qui s'effrite.
Ils auraient d'abord dû appliquer un revêtement pour que la nouvelle peinture tienne.
Et puis il y a monsieur Naido, la force tranquille, 10 ans qu'il vit ici, 10 ans qu'il répare tout ce qu'il peut.
L'autre jour, je suis monté sur le toit pour régler ce problème. problème de fuite. Et j'étais tout en haut. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Il fait sombre ici, on ne peut pas ouvrir un peu le rideau. Voilà, je vous présente Venon.
Mon plafond s'est effondré dans la salle de bain. Quand j'ai demandé pour des réparations, on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'argent. L'hiver, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est la vie.
Nous sommes donc chez Venon. Il porte un bonnet gris et un long peignoir. Et dans sa salle de bain, on a juste une petite planche en bois en guise de plafond. Les poutres sont apparentes. On précise qu'il a 86 ans.
Gérald m'a aidé à réparer ici.
Oui, parce que je suis plombier qualifié. J'ai 70 ans, dont 43 dans la construction.
Quelques portes plus loin, ce résident se douche à l'eau froide.
Ma chaudière ne fonctionne pas. Ça fait 5 ans que ça dure.
Et dans cet autre petit appartement, c'est le sol qui pose problème. Il manque des parties du lino rouge. On peut alors facilement se prendre les chaussons dedans et perdre l'équilibre.
Un jour, je suis tombé et je me suis cogné contre la baignoire. Ça me fait encore mal.
Vous savez, avec oncle Lennette, on ne s'entendait pas trop au début. Et puis j'ai réparé ses toilettes et maintenant ça dort.
Lennette acquiesce avec un sourire, assis sur son petit canapé près de la fenêtre, à côté d'un réveil d'un autre temps. Il nous parle de son loyer, un loyer certes très bas, 500 rands sud-africains, à peine 30 euros. Mais selon les résidents, c'est déjà trop pour vivre dans ces conditions.
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un village de retraite ici? On n'intéresse personne. C'est comme si j'étais resté dans mon township. Vous savez, ces quartiers pauvres où personne ne se soucie de vous.
D'ailleurs, ici, des dizaines d'appartements sont vides, trop insalubres pour être loués. Alors ils attirent la convoitise des criminels qui vivent autour. La nuit, des câbles et des tuyaux disparaissent, en témoigne cet agent de sécurité.
Ils sautent par-dessus ce grillage. Je pense qu'ils se cachent d'abord là-bas et attendent. Quand on repasse par là, on découvre alors qu'ils nous ont visités.
Monsieur Naido a donc entrepris de souder les portes des appartements vides. Brian, lui, fait parfois des rondes. Sa voiture a déjà été vandalisée 2 fois. Mais cette implication des résidents semble déplaire à la responsable des lieux.
Tu n'es qu'un locataire ici, comme tous les autres. Tu n'es pas spécial, Brian, juste un locataire.
Un échange musclé, puis des sourires, car étrangement, Brian et la directrice s'entendent plutôt bien. Une situation qui prouve que tout le monde connaît le vrai problème, le manque d'argent public et de volonté politique.
Je m'appelle Faiz Hacheim, je suis conseillère de quartier. Vous voyez là-bas, de l'autre côté de la rue, c'est une maison de retraite privée. Les résidents ont leur propre hôpital, 3 repas par jour, parce que c'est privé. Leurs familles ont les moyens de les y envoyer. Mais pour les personnes âgées pauvres, on fait quoi? Ils ont payé leurs impôts toute leur vie. C'est tout simplement le devoir de l'État de prendre soin d'eux maintenant.
En partant, une résidente nous confie avoir perdu tout espoir en la municipalité. « Je ne veux plus leur parler, je ne me plains même plus, j'ai accepté », nous dit-elle. Nous avons transmis une liste de questions à la ville envoyée il y a 6 jours, mais ces questions sont restées sans réponse.
Merci beaucoup pour le reportage signé Valentin Hugues. La suite ce soir, c'est Guillaume Audin qui va chercher l'actualité sous les radars. On parlera notamment d'Haïti ou d'ours polaires. Et puis c'est vous aussi, Caroline Gillet, qui regardait, qui ouvrait les portes de l'Europe.
Oui, j'ai découvert grâce à cette chronique l'existence d'un club de Tarnay au sein des institutions européennes. Parmi eux, il y a Isabelle Pérignon qui s'occupe du droit des consommateurs.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète continue. Il fait une petite escale en Inde avec Ringa Ringa. C'est signé Mia et Alaraman. Et peut-être que ça vous dit quelque chose, c'était la BO de Slumdog Millionnaire. Figurez-vous, magnifique film. Allez, c'est Djoubeka, le programmateur de cette émission.
Ticket.
Dia et Ala Rahman sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Sous les radars, normalement, c'est maintenant, mais Guillaume Audat est en apnée parce qu'il vient d'arriver en courant.
C'est tout à fait ça.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Caroline Gillet. Allez, c'est parti.
France Inter, le 18-20.
Caroline au pays des 27, donc comme chaque mercredi, mardi. Voilà. Votre invitée aujourd'hui, elle vient du Tarn-et-Garonne, donc elle fait partie du club secret des Tarnais des institutions, et par ailleurs, elle s'occupe du droit de la consommation.
Absolument, elle s'appelle Isabelle Pérégnon, elle est chef de la direction consommateur de la Commission européenne, et elle était très contente de voir la semaine dernière les ministres de l'économie des 27 se mettre d'accord pour appliquer une taxe de 3 euros sur les petits colis importés dans l'UE. Tout ça pour lutter notamment, vous l'aurez deviné, contre l'entrée de produits chinois via des plateformes comme Shein, Temu ou AliExpress. Des produits pas chers mais qui respectent peu les normes européennes et qui sont potentiellement dangereux. Mais c'est quoi les normes européennes? Isabelle nous explique. Je suis arrivée à ses bureaux avec un peu d'avance. On me propose d'attendre sur un canapé.
Il y a des cours d'initiation à la langue bretonne à Bruxelles.
Et je parle comme ça pas toute seule, mais à la dame de la sécurité qui est de l'autre côté du hall, très sympa. On est toujours 7 minutes avant le début du rendez-vous, mais elle me dit que c'est une bonne idée de se faire annoncer un peu en avance.
C'est pour le boulot, c'est bien vu.
C'est bien vu. Ça fait la fille sérieuse, quoi.
Voilà. Bonjour, j'ai une personne qui est là pour vous rendre. Merci beaucoup. Écoutez, bonne M.
Je suis accompagnée jusqu'au bureau de Madame Pérignon et je donne un 8 sur 10 à cet espace aéré, dépouillé, mobilier blanc épuré, grande table de réunion.
Et on aperçoit le Parlement. Là, c'est le bâtiment en fait, de la DG Home, Affaires intérieures, sécurité, migration.
Et est-ce que c'est la sécurité? Ils surveillent? Vous faites attention particulièrement à ce que vous faites?
Non, pas du tout. Je leur fais bonjour par la fenêtre.
Ah ouais. Il y en a que vous avez identifié
des anciens,
qui sont sympas.
Non, c'est des anciens collègues. J'ai travaillé aussi dans le bâtiment en face.
Trop drôle. Ouais. Ça fait 2 ans qu'Isabelle travaille au droit des consommateurs. Avant, elle s'occupait de lutte contre le blanchiment et de coopération financière.
Il y a un monsieur chauve là qu'on voit de dos, je crois. Vous le connaissez, lui?
Lui, non.
Oh. Isabelle aime le droit des consommateurs.
Hello.
Parce que c'est super concret, dit-elle. Par exemple, pour le droit des passagers, voilà les plaintes qui lui ont été remontées l'été dernier.
Consommateurs en ont marre. Ils se sont promenés avec leur petit bagage à main gratuit et puis il suffisait qu'il y ait des connexions entre deux vols, souvent low cost, pour que le petit bagage à main soit plus conforme, en fait. Nous, en tant que représentants des consommateurs, on essayait de faire valoir notre voix et d'expliquer que les compagnies aériennes peuvent décider elles-mêmes des dimensions, mais qu'au moins ils se mettent d'accord entre eux sur la dimension. Donc ça, c'est les BUC qui nous avaient avertis.
BUC, le Bureau européen des unions de consommateurs, qui regroupe donc les équivalents de UFC Que Choisir dans toute l'Europe. C'est eux qui font remonter les plaintes des consommateurs. Pour BUC, on les entendra dans un prochain épisode, c'est pas toujours simple de faire le poids face aux lobbies d'entreprises qui ont des gros moyens.
On essaie de trouver un équilibre entre ce qu'on peut demander aux entreprises en termes de, pour éviter les fausses promotions, publicité mensongère, les affichages de prix qui sont pas conformes parce que en fait ils vont dire que c'est 88% de réduction, mais il faut que ça soit calculé selon une certaine manière, quoi. Mais en même temps, évidemment, il faut trouver l'équilibre et s'assurer qu'on n'est pas en train de imposer des règles trop lourdes aux entreprises.
Je vous propose, avant d'aller plus loin, de faire un petit flashback pour mieux comprendre l'histoire de cette personne qui nous parle. Et pour ce faire, un objet absolument pas fabriqué en Chine qui se trouve sur son bureau peut nous aider. Une petite figurine de skieur.
Qui me rappelle en fait que ma passion, moi, c'était les montagnes. On allait en fait tous les week-ends avec le ski club de Montauban, skier dans les Pyrénées. Et malheureusement, opération du genou,
À 14 ans, suite à plusieurs chutes, elle subit une opération du genou et doit abandonner ses rêves de faire une carrière sportive. Isabelle décide alors de faire des études de droit à Toulouse, avec l'idée de se tourner ensuite vers le droit des sportifs. Un jour, elle a 23 ans et elle va pour la première fois à Paris pour un entretien auprès d'un cabinet d'avocats qui propose une bourse.
Et les entretiens, en fait, c'était une dame. Malheureusement, je n'ai pas eu. Et cette dame, en fait, m'a rappelé quelques jours après. Donc, elle s'appelait Christine Lagarde.
Christine Lagarde, aujourd'hui présidente de la Banque Centrale Européenne.
Et donc, elle m'a rappelé en me disant, en fait, on a pensé créer une deuxième prix qui sera des études pendant une année. Donc, on vous offre, génial, pour aller, en fait, à Bruges. Et Bruges, en fait, pour moi, Bruges, c'est une petite ville qui est près de Bordeaux. Donc, j'étais là, ah bon, très bien, bon, mais pourquoi pas, ça va me changer de Toulouse. C'était supposé être une heure de chez moi, mais en fait non, c'était en Belgique, l'endroit où il y a le Collège d'Europe.
Le Collège d'Europe, c'est un ENA européen. C'est là où sont formés des étudiants et étudiantes de tout le continent pour intégrer ensuite les institutions européennes.
Et donc ça, c'était pour moi une révélation, mais c'était aussi très dur parce que je parlais super mal anglais. Et que les autres, quand je suis arrivée, ils avaient tous fait des Erasmus, ils avaient vécu dans plein de pays.
Et quand la rentrée est arrivée, c'est la mère d'Isabelle qui l'a conduite jusqu'à Bruges.
C'était un peu comme le film dans Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Donc on avait acheté une grosse doudoune avec maman dans la voiture parce qu'on montait dans le nord, quoi. Donc
on avance de plus de 30 ans et on revient aux droits des consommateurs avec un exemple concret. Comme ça fait un moment qu'on se parle, il est temps de changer les piles de mon enregistreur. Et tiens, est-ce qu'elle respecte les normes européennes?
Ça a l'air bon.
Ça a l'air bon.
Ah non, made in China. Faut faire attention là. Normalement, en fait, sur tous les objets, on doit mettre la provenance et surtout quel est l'importateur et le distributeur. Donc là, ils sont corrects. Donc c'est distribué par GmbH, ouais, donc une société allemande, et c'est fabriqué en Chine. Donc ça, là, elle est correcte. C'est-à-dire que si vous avez la moindre problème, je sais pas, que tout d'un coup, elle soit mise à l'isolée et que vous prenez le courant. Donc là, en ce moment-là, vous avez, en tant que consommateur sur le sol européen, la possibilité de vous retourner soit contre le distributeur, soit contre le producteur.
Voilà, et dans le prochain épisode, toujours avec Isabelle, on verra comment sont gérées les alertes sur les produits défectueux qui arrivent directement dans vos boîtes aux lettres, des jouets par exemple.
Merci beaucoup, Caroline, absolument. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Donc ça y est, il a bu son verre d'eau, voilà. Il est en forme sous les radars, Guillaume Audat.
L'Union européenne sanctionne Michel Martelly, Rony Célestin et Yuri Latortue. Ces figures politiques sont accusées d'avoir armé et financé des gangs.
C'est donc d'abord en Haïti que ça se passe, Guillaume, où certains dirigeants n'hésitent plus à frayer avec le crime organisé pour servir leurs intérêts politiques.
C'est dire à quel point ce pays fait chaque jour un pas supplémentaire vers le chaos si l'Union européenne sanctionne un ex-président et deux ex-parlementaires. C'est à la lumière d'un rapport de l'International Crisis Group qui vient d'être publié et qui documente la façon dont les gangs changent de nature en Haïti et sont en train de s'institutionnaliser, si l'on peut dire, avec la complicité d'anciennes figures locales. Très concrètement, en Haïti, du petit vendeurs de rue aux entreprises implantées dans leurs bastions. Les groupes armés ont systématisé les collectes. C'est une sorte d'impôt illégal que prélèvent ces bandits désormais à Port-au-Prince. Il est impossible de circuler sans s'acquitter d'une dîme jusqu'à 1500 euros par mois et par camion sur certains axes sous couvert de redistribution aux plus pauvres. Ces milices viennent en réalité combler le vide laissé par l'État failli et cherchent à s'imposer maintenant dans le monde politique. Ceci à 2 mois en principe de la formation d'un nouveau gouvernement et de l'arrivée sur place d'une force de sécurité déployée par l'ONU.
Long regarded as an icon of the North, polar bears now face ever bigger challenges.
Alors on sait, Guillaume, depuis un certain temps que les ours polaires se préparent à des lendemains sans banquise, mais une étude pose désormais un diagnostic génétique sur leur disparition programmée.
Voilà, et pour ne pas rester de glace, si j'ose dire, face à cette information, réalisée à minima qu'il s'agit d'une véritable souffrance animale silencieuse, lointaine, en disparaissant peu à peu, se dire que ces ours polaires, oui, souffrent énormément parce qu'ils mangent beaucoup moins. Une étude de Mobile DNA, un journal scientifique américain, démontre que, pour juguler précisément le manque de nourriture et de phoques, par exemple, l'ADN de ces ours du Grand Nord est en train de se transformer, mais beaucoup moins vite que le réchauffement n'efface la banquise. On dénombre aujourd'hui environ 25 000 spécimens de cette espèce magnifique à fourrure blanche. D'ici à 25 ans, 2/3 de ces ours polaires auront disparu. C'est un drame, disais-je, mais également un signal d'alarme génétique. Si l'ours polaire finit par s'éteindre sous nos yeux, ce sera le signe que le climat bascule beaucoup plus vite que la capacité du vivant à s'adapter. Un avertissement, un de plus pour l'humanité.
Pardon monsieur, je l'ai mangé. Un détour en Libye pour terminer et se dire qu'à la fin de l'histoire, la culture sauve des vies. Le musée national rouvre ses portes à Tripoli.
Voilà, le ministre de la Culture qu'on a entendu ne dit pas autre chose. La réouverture du musée national, ça s'est passé hier soir sous un ciel d'artifice à Tripoli. C'est le moyen le plus vertueux pour les Libyens de se réapproprier leur passé tout en se tournant vers leur avenir. Vous connaissez la formule, hein, si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Ce que cherche à cimenter ce musée, c'est un patrimoine commun Hein, dans ce pays où cohabitent de multiples tribus et dynasties, après 14 années de confusion, de chaos et avant cela de guerre civile. Alors qu'est-ce que l'on voit dans ce musée? Des mosaïques romaines, des momies vieilles de 5000 ans, des statues grecques. Il y a, c'est vrai, en Libye, et c'est ignoré, de somptueux sites archéologiques entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, entre l'Est et l'Ouest, encore divisés. L'objectif de ce musée, c'est de réunifier ce pays. Ça donne envie de prendre un taxi pour Tobrouk, parce que oui, la culture, ça sauve des vies.
Merci beaucoup, Guillaume Audat.